Vous êtes sur RTL. Pascal Pro sur RTL.
Merci Christelle, bon voyage. Demain vous partez sur des terrasses en France.
On vous regrettera, c'est les terrasses, voilà, sous un parasol qui va donc ressembler à un parapluie, mais on sera heureux quand même.
Merci Christelle, rendez-vous à demain. Nos amis Nicolas Georgerot et Philippe Sansfourche, que vous connaissez, qui commentent les matchs de l'équipe de France pour RTL, sont dans ce studio. Ils sont incrédules, pour tout vous dire. Ils n'y croient pas depuis une heure, deux heures, puisqu'ils suivent toutes les déclarations de Deschamps depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'on avait plutôt le sentiment que la porte était fermée. Mais le principe de l'émission, c'est d'être avec les auditeurs. Arnould est là. Et puis, Nicolas et Philippe vont pouvoir intervenir. Ou même Arnould poser des questions. Pourquoi pas, à nos spécialistes. Arnould.
Oui. Non, mais je blaguais en disant, est-ce qu'on est le 1er avril? Parce que c'est vrai que Didier Deschamps n'a jamais fait transpirer à aucun moment la possibilité que Benzema soit de nouveau sélectionné. Donc moi, ça fait... depuis que j'entends ça à la radio, je suis un peu estomaqué.
Alors estomaqué, j'ai l'impression que nos amis le sont aussi, pour tout vous dire, et pour le moment ils n'y croient pas vraiment. En tout cas, Philippe, vous n'arrivez pas à vérifier cette info.
En tout cas, voilà, pour l'instant il ne s'agit pas d'affirmer très clairement que Karim Benzema sera dans la liste ce soir. Ce qu'on peut effectivement confirmer, c'est que la possibilité qu'il y soit existe depuis la journée d'hier, que c'est en réflexion, que ça fait partie de l'équation de la réflexion du staff de l'équipe de France, et que dans une dernière réunion de fin de matinée qui est censée mettre un terme à cette réflexion, ce qui nous est revenu dans la matinée, c'est que l'option prenait corps d'heure en heure. Donc c'est une façon de préparer déjà un petit peu les journalistes et donc l'opinion publique au fait que Karim Benzema sera dans la liste ce soir. On ne peut pas l'affirmer alors qu'il est, mais la tendance est quand même de plus en plus nette.
Bon, Arnould, vous vous disiez, on n'est pas le 1er avril tout à l'heure. Pourquoi, au fond, vous ne souhaiteriez pas... Karim Benzema est le meilleur avant-centre de l'histoire, quasiment, du football français, en tant que joueur. Hein, c'est sans doute supérieur même à ce que fut Jean-Pierre Papin un moment, sur le plan des trophées, sur le plan du nombre de buts dans un championnat, sur le plan de la qualité, peut-être. Bon, donc, sa valeur n'est pas en cause. Nous sommes d'accord.
On est d'accord. Moi, je ne mets pas du tout en cause la qualité du joueur. C'est juste une homogénéité dans un groupe où aujourd'hui, c'est important. C'est une équipe. Il y a des individualités, mais il y a aussi collectif. Et aujourd'hui, Karim Benzema ne fait pas partie du collectif de l'équipe de France.
Il n'a pas joué depuis 5 ans et demi, c'est cela. Mais pour vous, c'est rédhibitoire.
Rédhibitoire, rien n'est jamais rédhibitoire, mais je suis pas sûr que ça soit très opportun de sélectionner Karim Benzema. Ça aura en tout cas un effet, c'est que ce soir, à l'annonce des sélectionnés, il y aura probablement plus de gens devant la télévision ou à la radio à écouter Didier Deschamps annoncer les 26 candidats.
Oui, vous n'avez pas tout à fait tort. Et le paradoxe, c'est que s'il est sélectionné, on va ne parler que de ça, et entre guillemets, ça va polluer. Je ne sais pas si le terme est juste, mais en tout cas, toute la préparation médiatiquement, on va ressortir les punchlines de Benzema, ce qu'il avait dit sur Giroud, on va ressortir ses images et ou ses photos qu'il avait postées sur Instagram, ça va être compliqué. Nicolas Georgerot, la justification s'il revient, les sportifs pour Didier Deschamps, on est d'accord, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avant-centre aujourd'hui en équipe de France ?
Bah, y a des solutions, alors même si aujourd'hui il y a des joueurs qui, pour des raisons diverses, ne sont pas au top, on pense par exemple à Olivier Giroud parce qu'en club il n'a pas aujourd'hui énormément de minutes, mais en équipe de France il a donné quasiment tout le temps satisfaction à l'encadrement de l'équipe de France. Anthony Martial est un joueur que Didier Deschamps voulait aussi installer en avant-centre, qui malheureusement aussi est touché et blessé et qu'il y a une incertitude au-dessus de son nom. Il y a Wissam Ben Yedder qui est arrivé ces derniers mois, donc il y a quand même eu des solutions. Donc il y a aussi et Arnaud avait raison de parler de cet équilibre, parce que Benzema, si vous prenez Benzema dans le, c'est pas pour qu'il soit remplaçant. Donc il y aura aussi quelque chose à créer, à former.
Oui, alors ça vis-à-vis des autres, ça c'est un drôle d'argument quand même.
Non, c'est pas un argument. C'est-à-dire
vous faites comment? Il est au même titre que les autres joueurs. Il y a pas de place de titulaire.
Bah, y a pas de place de titulaire. Vous allez dire à Karim Benzema, je le prends, je te prends, tu viens avec nous, tu nous accompagnes à l'Euro.
J'imagine que c'est le deal qui a été passé.
Peut-être qu'il sera sur le banc. Bah, c'est pas
c'est le deal qui pourrait être passé entre Didier Deschamps et lui. Il peut pas lui dire, je te prends et tu seras titulaire.
Il peut pas assurer une place.
Dans le discours, il peut pas tenir ce discours-là. En revanche, aller chercher Karim Benzema 5 ans après, avec tout ce que ça représente aujourd'hui dans le débat, dans l'opinion publique, ce serait incompréhensible de le mettre sur le banc. Souvenez-vous, on y faisait référence juste avant d'entrer dans ce studio avec Nicolas, souvenez-vous de la Coupe du Monde 2010, triste Coupe du Monde 2010, lorsque Raymond Domenech va expliquer à Thierry Henry, alors qu'au départ il pense qu'il est, faut dire les mots, cramé, et qu'il n'est plus en capacité de pouvoir apporter à l'équipe de France, il va le chercher à Barcelone. D'ailleurs, il y a un flou sur cette histoire. Au départ, il va le voir pour lui dire qu'il ne peut pas le prendre, puis finalement, après discussion, il le prend. Thierry Henry revient dans le groupe de l'équipe de France et là il n'imagine pas un instant qu'il ne sera pas titulaire et comme il ne l'est pas, ça crée la confusion dans le groupe.
Alors c'est les auditeurs qui doivent parler bien sûr et poser des questions, donc les auditeurs, on va retrouver Eric dans une seconde et Talel également, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
J'ai l'impression de me replonger dans On refait le match avec Nicolas Georgerot et avec Philippe Sansfourche parce qu'on poursuivait la discussion, bien évidemment, durant la pause. Eric est avec nous. Eric, qu'est-ce que vous en pensez ? Bonjour, vous habitez Nantes.
Oui, bonjour Pascal. Merci de me donner la parole. Ben moi, je pense que Didier Deschamps ne va pas le sélectionner. Et même, j'espère qu'il ne va pas le sélectionner. En 98, quand Aimé Jacquet a dit à Eric Cantona, t'es le meilleur de l'équipe, mais l'équipe elle est meilleure sans toi, personne n'a rien dit sauf les anti-Jacquet. Le rôle de Didier Deschamps, c'est de faire gagner l'équipe de France. Ben, il l'a bien fait en Russie. Et, Benzema, c'est peut-être le meilleur attaquant, mais, je pense que, quand je l'ai vu jouer en équipe de France, moi, je suis un ancien footballeur. Il traînait sa misère.
Ça dépend. Il a fait des bons matchs quand même contre l'Ukraine, notamment le match retour lorsque la France gagne 3-0. Il avait été bon.
Oui, je ne me rappelle plus de ce. Enfin,
il avait même marqué, je crois.
Match-là. Oui, bien sûr, il a marqué.
Mais c'est son meilleur match. C'est vrai qu'il n'a pas brillé en équipe de France et notamment il a eu une longue période sans but dont chacun se souvient.
Et comment une équipe de foot, c'est un collectif avant tout. Ce n'est pas que des individualités. Vous prenez. Zidane, au temps de sa gloire, vous lui mettez le Dibrel avec lui, il ne gagnerait pas un match. Hein. Donc, non, pour moi. Et puis, je pense qu'il y a un passif avec Didier Deschamps.
Alors, on va le rappeler, ce passif, parce qu'effectivement, messieurs, le passif, c'est quoi ?
L'affaire de la sextape à Clairefontaine, on est à l'automne 2015. Donc là, il y a déjà un coup de canif, déjà un peu dans le contrat de confiance. Et puis ça crée des remous dans le groupe. Et puis ça va se poursuivre quelques mois plus tard, puisque juste en amont de l'Euro, il y a cette interview de Karim Benzema, un quotidien espagnol, quand il dit que Karim Benzema n'est pas à l'Euro et que Didier Deschamps a cédé à une partie raciste de la France, ou la pression d'une partie raciste de la France. Et donc, ça, évidemment, il y a des répercussions avec ce qu'on a toujours dit, le mur tagué de sa maison, Didier Deschamps à Concarneau, etc. Et donc, il y a une vraie fracture. Il y a une vraie fracture dans les relations entre les deux hommes.
Donc, ça voudrait dire que si Deschamps reprenait Benzema, ils se seraient parlé et auraient aplani, bien évidemment.
C'est
différent. Bon, Eric, vous n'êtes
tout certain. Hein.
Pardon ?
Ce qui n'est pas du tout certain, parce que ça n'est pas dans les habitudes de Didier Deschamps.
Mais il avait pris Rabiot d'un autre côté, Rabiot.
Oui, mais sans prévenir,
connaître ce dossier-là, oui. Qu'à aucun moment le joueur et son entourage n'ont eu le moindre signe, le moindre petit signal qu'il allait revenir. Il a pris sa convocation, comme nous tous, au moment de la liste.
Bon, Eric, donc vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas convaincu par l'aspect sportif, et puis l'homme, Benzema, vous pensez qu'il n'a pas... Qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait faire pour mériter la sélection.
Oui, tout à fait. Ouais, il ne mérite pas. Et bon, je pense qu'il est un peu nocif plutôt. C'est plutôt un joueur.
Il n'est pas nocif au Real Madrid. C'est terrible l'image de Benzema parce que à Madrid, c'est un dieu. Partout où il est passé, il a été plutôt apprécié de ses coéquipiers. Hein. C'était vrai à Lyon, vraiment, où les gens l'aiment bien. Karim Benzema, les joueurs l'aimaient bien. C'est un joueur sans problème, qui a eu très peu de cartons rouges dans sa carrière, qui a eu très peu de gestes vraiment déplacés dans sa carrière, et qui jouit en France d'une image qui n'est pas...
Après, il y a des faits, il y a des choses factuelles, Pascal. À l'automne prochain, va s'ouvrir le procès au tribunal correctionnel de Versailles, dans lequel Karim Benzema est sur le banc des accusés, comme quatre autres personnes, pour chantage au sein même d'un rassemblement de l'équipe de France. Chantage envers...
Et vous avez raison de rappeler ça, parce que je crois que c'est Manuel Valls qui était intervenu dans un débat le jour où il était mis en examen, disant qu'il ne fallait pas qu'un joueur mis en examen participe à la Coupe du Monde,
semble-t-il. C'était un autre débat, et effectivement...
Oui, mais ce débat, il va exister.
La fédération avait tranché, et certains l'avaient interprété comme le fait que la fédération avait cédé finalement au pouvoir et à Manuel Valls. Depuis, il y a eu des appels, il y a eu la Cour de cassation, il y a eu beaucoup de choses, mais finalement, ce procès, il va bien
exactement,
avoir lieu.
Exactement, donc ça aussi, c'est un paramètre. Bien sûr, c'est un paramètre qui sera, à mon avis,
commenté.
Qui sera commenté, exactement. Bon, merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup à vous.
De rien. Et puis vous êtes Weiss pour Karim Benzema.
Bon, vous êtes Nantais, Eric.
Oui, oui.
Bon, bah, vous allez peut-être vous en sortir, les Nantais en Ligue 1.
Ben oui, j'espère. Mais moi, je suis pas Nantais d'origine. Je suis Finistérien. Et donc, je suis bien. J'ai 63 ans. Je suis plutôt pour le Stade Rennais, moi, supporter, mais bah,
écoutez,
historique.
J'ai bien fait de parler à un Nantais qui est pour le Stade Rennais. Je me suis encore fait des amis à Nantes. Merci beaucoup. Merci, Eric.
Allez,
on va marquer une pause et on va saluer Greg Caranoni qui est là.
Bonjour à tous.
Bonjour, je ne sais pas si vous avez un avis.
Greg, je trouve qu'il n'y a pas de sujet. Il sera sélectionné. Voilà.
C'est une bonne analyse. Mais est-ce que vous souhaitez, est-ce qu'il a sa place selon vous? C'est ça la question.
J'en sais rien. Franchement, j'en sais rien.
Je vous remercie beaucoup de votre intervention qui aura donné vraiment de la qualité à ce débat. Laurent Tessier, en revanche, qui est un vrai footballeur, va nous dire dans une seconde s'il pense qu'il faut que Karim Benzema revienne en équipe de France.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous allons saluer notre ami Georges Rau qui va aux infos peut-être, qui va quitter ce studio pour travailler.
On va essayer de trouver toutes ces informations pour ce soir, pour la liste.
C'est à quelle heure ?
20h20.
C'est sur quelle chaîne ?
TF1 et M6.
Et c'est Marie Portolano et Nathalie Yanetta, nos consoeurs, excellentes consoeurs, qui vont poser les questions.
Exactement.
Donc suspense important. Je salue Denis Grandjou qui nous écoute du côté de Bordeaux et qui dit Marius Trésor est prêt pour l'équipe de France. Donc pourquoi pas. Et Talel est avec nous. Bonjour Talel. Vous habitez Troyes. Karim Benzema.
Oui,
vous êtes jeune ?
Bonjour à tous.
Quel âge vous avez Talel ?
J'ai 18 ans, bientôt 19 ans.
Ah ouais, donc vous n'avez pas beaucoup vu Karim Benzema en bleu ?
Si, ça fait quand même pas mal de temps que je suis le foot, je l'ai pas mal vu quand même.
Quel est votre sentiment ? Qu'est-ce que vous espérez ?
Moi j'espère qu'il sera sélectionné, bien sûr. Je suis un grand admirateur de Karim Benzema, un grand fan du joueur en lui-même, quelqu'un qui marque 71 buts en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Je pense qu'il atteint un niveau actuellement, personne ne peut le nier, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et l'un des meilleurs à son poste. Pour avoir regardé quelques matchs du Real Madrid, on peut dire que c'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui aide l'équipe à atteindre ses objectifs. Pardon. Sincèrement, moi j'espère qu'il sera sélectionné parce que c'est un très grand joueur et que il peut qu'apporter du bon à cette équipe de France. Je pense que Deschamps cherche un peu un neuf, même si Giroud fait ce qu'il a à faire, fait du bon boulot. Je pense que derrière lui, ça se bouscule un petit peu. Il y a Ben Yedder, il y a Martial, Lacazette, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas été appelé, mais pourquoi pas. Et je pense que Benzema peut apporter que du bon et je pense que c'est le moment pour lui de faire son retour. Il n'a jamais été aussi bon et je pense qu'il peut qu'apporter du bon.
Philippe, si Benzema était sélectionné, ça voudrait dire qu'il y ait un attaquant de moins. Est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que Giroud ne soit pas dans la sélection ? Parce qu'on rappelle que Giroud ne joue plus avec son club.
Ce serait une immense déflagration, mais tout est possible au moment où on se parle. Ce qui est certain, c'est que à l'automne dernier, il y avait un match capital, qui était le match Portugal-France, qui était vraiment le baromètre pour savoir où en était l'équipe de France. Sur cette rencontre, Didier Deschamps avait fait le choix de faire jouer Anthony Martial et pas Olivier Giroud. Donc déjà, on pressentait qu'il était dans la préparation de l'après. Il se trouve que depuis, Anthony Martial s'est blessé lors du dernier rassemblement équipe de France et qu'il y a un doute sur la forme physique du joueur et sur son genou et une éventuelle blessure. Donc, la question se pose. Maintenant, entre-temps, on peut aussi se dire que Kylian Mbappé a donné de multiples garanties à ce poste d'attaquant de pointe en équipe de France, avec les matchs qu'il a fait notamment en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Donc la question sportive, elle est centrale, mais on le sait, on le commande toute l'année avec le Paris Saint-Germain. C'est pas parce qu'on additionne Neymar, Mbappé, Di Maria, Icardi que ça fonctionne. Et en équipe de France, c'est pareil. Il y a un doute, et moi ce que je ne comprends pas, c'est que Didier Deschamps n'ait pas fait ce choix-là, s'il devait le faire, au mois de mars dernier.
Mais parce que la situation a changé.
Dans l'environnement de l'équipe.
Mais la situation a changé depuis le mois de mars, vous le dites vous-même. Martial est blessé, Giroud n'a toujours pas joué. C'est un pragmatique Deschamps, c'est-à-dire qu'il prend Benzema parce qu'il se rend compte peut-être qu'il n'a plus d'avant-centre, ou en tout cas qu'il n'a pas
Au risque de perdre des joueurs majeurs.
C'est-à-dire
la situation, par exemple, d'Antoine Griezmann, qui est en difficulté à Barcelone et qui a besoin de se régénérer avec l'équipe de France. Comment on va s'articuler le jeu de l'équipe de France avec Karim Benzema et Antoine Griezmann? Tout ça, ce sont des interrogations qui peuvent être dangereuses.
Talel, en tout cas, vous allez attendre ce soir avec impatience et espérance la sélection de Karim Benzema.
Exactement, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on attend pour pas mal de personnes son retour. Et ce serait formidable. Il vient de recevoir le trophée UNFP de meilleur joueur à l'étranger. Je pense que, pour moi, il mérite sa sélection. Il mériterait d'être à l'Euro.
Ben merci Talel. Vincent est merci également sur cette longueur d'onde. Vincent qui habite Amiens dans la Somme. Bonjour Vincent.
Bonjour Pascal, je suis ravi de vous avoir au téléphone parce que sachez que vous avez bercé mon enfance avec On refait le match. Grand supporter de football.
Et on pense à Eugène Saccomanno.
Voilà.
On pense à Eugène Saccomanno. On va retrouver, tiens, d'ailleurs, le jingle dont refait le match. Je pense que Greg, il va nous le renvoyer tout à l'heure, le jingle d'Eugène. Vincent, vous espérez Karim Benzema?
Mais tout à fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'écoutais attentivement vos auditeurs. Il y a des pour, il y a des contre. Moi, je vais vous expliquer, pour tous ceux qui sont au monde du football, vous savez très bien que pour les équipes de championnat, Ligue 1, Première Ligue, Espagne, etc. On parle toujours du renouveau pour pouvoir surprendre. Ça, c'est la première des choses. Aujourd'hui, l'équipe de France de 2018 n'est pas celle de 2021, c'est le premier argument. Le deuxième argument, on parle toujours des meilleurs attaquants, etc. Et on a le potentiel Karim Benzema. Je vais vous être tout à fait honnête avec vous, je n'aime pas l'homme en lui-même, qui peut être parfois prétentieux dans la vie extérieure du football, mais footballistiquement, il est du niveau de Zlatan, de Robert Lewandowski, de Lukaku. Et aujourd'hui, il serait utopique de dire on va faire jouer des gens comme Giroud, des gens comme Anthony Martial, où on est incertain. Et vous savez, quelqu'un qui est revanchard, qui a envie un peu d'une rédemption, enfin voilà, je suis supporter de l'équipe de France avant tout pour mon pays, on a une situation sanitaire qui est compliquée, on a besoin de rêver, on a besoin de toutes les forces vives. Et Karim Benzema, c'est le plus. Je ne dis pas qu'on va gagner l'Euro avec lui, mais ne pas le prendre, c'est dommage. C'est extrêmement dommage parce que football, vraiment le footballeur qu'il est, le monsieur qui se donne, c'est exceptionnel. Et une dernière chose, il faut savoir que je pense que Zinedine Zidane, j'en suis convaincu, si jamais il y avait un retour de Karim Benzema, il n'y serait pas pour rien. Il y a un lien avec Didier Deschamps. Ils ont toujours eu ce lien. Et c'est peut-être la passerelle entre les deux hommes. Donc se priver de Karim Benzema, c'est une bêtise. Surtout que il faut pas se mentir, il a le niveau. Aujourd'hui, on compare tous des gestes formidables de Zlatan, de Lukaku, de Robert Lewandowski, mais Karim Benzema, il est de ce niveau-là. Personne ne l'oublie. Personne ne l'oublie.
Vincent, voilà. Deux choses dans ce que vous dites, j'interroge Philippe Sanfourche. Première chose, est-ce que Benzema est au top de sa carrière ou est-ce qu'il est déjà, parce qu'il a un certain âge aussi, sur une pente un poil descendante?
Non, on peut dire que ce soit sur le plan physique où il s'est entretenu et il a même optimisé sa condition physique au cours des années. On le voit, hein, tous les grands buteurs du moment, ils ont 32, 33, 34 ans. On citait des Lewandowski, on citait Cristiano Ronaldo. Ces joueurs-là, aujourd'hui, la médecine, la préparation physique a fait tellement de progrès ces dernières années qu'un joueur de 32, 33 ans, il est au sommet, en fait, finalement. Donc Karim Benzema, physiquement parlant, il est au sommet. D'un point de vue footballistique, le départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid a nécessité qu'il endosse un costume plus important, une responsabilité dans l'équipe, et ça se voit. Il a mis quelques mois à le digérer, c'était logique. Aujourd'hui, il est en pleine possession de ses moyens. Donc le footballeur, il n'y a pas de débat. D'accord. De débat.
Bon, autre chose que disait Vincent, Zidane Deschamps. Zidane a influencé Deschamps.
Alors ça, c'est beaucoup plus complexe. Il ne vous aura pas échappé que Zinedine Zidane est quasiment sur le départ au Real Madrid et qu'il est tout à fait possible qu'il reprenne une autre fonction dans un autre club, par exemple à la Juventus. Mais on sait très bien que la finalité, ce sera la succession de Didier Deschamps. C'est-à-dire qu'il est amené, il est appelé. Noël Le Graët l'a d'ailleurs redit à de nombreuses reprises dans ce studio, que Zinedine Zidane était appelé à être le prochain sélectionneur. Quel intérêt aurait Zinedine Zidane à mettre maintenant Karim Benzema dans la boucle, à aider Didier Deschamps? Ils ne sont pas ennemis, attention, on ne va pas dire ça.
À l'intérêt, c'est mais l'intérêt
Zinedine
supérieur
Zidane,
du football français.
Il doit exister par lui-même, et l'un de ses arguments pourrait être, si ça ne se passe pas bien avec Didier Deschamps, moi je reviens avec Karim Benzema. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'intérêt pour Zinedine Zidane, et s'il avait dû y avoir un intérêt, il serait intervenu bien avant.
Eh bien écoutez, merci Philippe Sanfourche. Eugène Saccomanno, souvenez-vous.
C'est un vieux générique.
On refait le match avec Eugène Saccomanno.
On refait le match. On refait le match donc avec ce soir Olivier Rey du journal But.
Bonsoir Sacco.
Bonsoir Olivier. Avec Patrick Lafayette du journal L'Équipe.
Bonsoir Maître Sacco.
Salut mon cher Lafayette. Gilles Verdez, le procureur.
Bonsoir Eugène.
Du Parisien. Pascal Pro de TF1 et LCI.
Le défenseur, bonsoir Eugène.
Voilà, et mon ami Dominique Grimaud de Réservoir Sport. Oui. Alors nous avons bien entendu beaucoup de...
Vous en voulez un plus récent?
Non, on l'écoutera tout à l'heure. On a une pensée également pour Olivier Rey qui nous a quittés il y a quelques années. Puis très souvent on parle et on pense à Eugène. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Disons-le, c'est la question qui intéresse au standard. Bonjour Laurent.
Bonjour Pascal, bonjour
et
à tous.
C'est vrai que les témoignages sont assez nombreux, manifestement. Pour le moment, on n'a pas forcément un enthousiasme très important pour le retour de Karim Benzema.
Oui, cet enthousiasme, c'est vrai, n'est pas forcément encore présent à l'heure actuelle. Alors vous, sélectionneur, qui doit être retenu? Nous vous reposons la question. Karim Benzema doit-il faire partie du groupe? Son nom, vous l'avez dit, revient avec insistance depuis 2 heures. Arnould n'était pas convaincu au 32-10.
Est-ce qu'on est le 1er avril? Parce que c'est vrai que Didier Deschamps n'a jamais fait transpirer à aucun moment la possibilité que Benzema soit de nouveau sélectionné.
Talel, lui, il croit dur comme fer.
Je pense qu'il atteint un niveau actuellement, personne ne peut le nier, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et l'un des meilleurs à son poste.
Et sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Xavier espère voir Karim Benzema dans la liste, c'est actuellement le meilleur attaquant français. Il réalise une saison hallucinante avec le Real Madrid, rajoute Fred. Imaginez un peu l'attaque. Mbappé, Benzema, Griezmann. C'est le meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des Champions, rappelle David. L'un des meilleurs buteurs de l'histoire du Real Madrid. Prenons le meilleur, tout simplement.
Merci Laurent. On va donc être avec Louis. Bonjour Louis.
Bonjour.
Et Louis, vous nous appelez de Lagny-sur-Marne?
Exactement, Lagny-sur-Marne, oui, tout à fait.
Bon, vous êtes un pro ou un anti-Benzema?
Alors, je suis ni un pro, ni un anti. Je suis juste, parce que sportivement, Benzema, il n'y a rien à dire. Mmh. Sportivement, bien sûr qu'il a sa place en équipe de France, il n'y a aucun problème. Moralement, je pense qu'il ne l'a pas du tout.
C'est-à-dire?
Je me rappelle toujours, moi, d'un match où la Fédération espagnole de football avait demandé, en hommage aux victimes des attentats du 13 novembre, que la Marseillaise soit jouée sur les terrains espagnols lors des matchs. Je me rappelle d'un match Real-Barça où M. Benzema, à la fin de l'hymne national, regarde au ciel et crache à terre.
Oui, alors c'est une image qui avait été interprétée. Je ne suis pas sûr qu'il faille l'interpréter comme vous le dites et je ne pense pas qu'il y avait une intention. Parce que ce que vous dites, c'est qu'il avait craché sur la Marseillaise. C'est ça que vous dites?
Exactement.
Je crois pas qu'il faille interpréter. Alors je.
Ok. Alors.
Après, vous savez, les images, on en fait parfois ce qu'on en veut. C'était peut-être la fin d'un hymne. Je me souviens effectivement, il y avait une sorte de mini polémique. Mais je n'imagine pas une seconde Karim Benzema crachant sur la Marseillaise. Ça n'a pas de sens.
Ok.
Ça n'a pas de sens.
Alors on oublie ça.
Louis.
On oublie ça. On met de côté. On met de côté ça. On vient sur autre chose. La France, c'est pour l'argent. Mon pays de cœur, c'est l'Algérie. C'est également une idée que je me fais ou...
Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est ce qui va ressortir, en tout cas. Parce que ces phrases, elles ont été dites. Et là, on voit bien comment... Benzema, c'est très particulier, visiblement, son rapport à l'équipe de France. Et toutes ces punchlines, parce qu'il y a également celle de Giroud, quand il a dit « Moi, je suis en Formule 1 et Giroud roule en karting », tout ça va ressortir. Et je disais tout à l'heure, le mot est un peu péjoratif, mais ça va polluer le climat de l'équipe de France, très certainement, plus le procès à venir, etc., etc. Donc c'est intéressant parce que vous préfigurez par votre intervention ce qui pourrait exister.
Alors moi, c'est simple, c'est pas grave. On revient quelques années en arrière. Cantona, pourquoi on l'a évincé de l'équipe de France ?
Parce qu'on considérait qu'il n'entrait pas dans le collectif.
Et pourtant, c'était un excellent joueur.
Bah oui, mais c'est un sport collectif, le foot.
Et Benzema, il est collectif ?
Il est.
Parce qu'il ne respecte quand
pour le coup, il est. Comment dire ? Cantona, c'était un rapport avec tous les autres joueurs de l'équipe de France à l'époque. Oui, évidemment que. Karim Benzema, il n'y a pas de problème sur le joueur qu'il est.
Cantona, c'était surtout le geste qu'il avait eu lors du match.
Oui, mais ce geste était à l'époque un peu oublié, soyons honnêtes. Mais en revanche, il n'y a pas de problème avec le joueur Karim Benzema. Mais en revanche, et là je vais faire réagir Philippe, on voit bien, Louis, ce que dit Louis, il y a beaucoup de gens, et pourquoi pas même des journalistes, qui viendront sur ce terrain-là et qui vont contaminer, si j'ose dire, la préparation de l'équipe de France par des questions à Didier Deschamps, par des questions à Karim Benzema, par des questions aussi aux partenaires, aux coéquipiers.
Déjà, moi, j'aimerais revenir sur le rapport à la France, le rapport à la patrie, à la nation. Karim Benzema est un personnage ambigu, avec beaucoup de paradoxes. Parce que, factuellement, c'est quelqu'un qui, alors qu'il est en Espagne depuis maintenant des années et des années, continue de payer ses impôts en France. C'est très clair, s'il les paye en Espagne, il en paierait moins. Donc c'est aussi une volonté de sa part, tous ne le font pas. Donc je suis pas en train de dire que je défends Karim Benzema, simplement ce que nous a expliqué l'auditeur est vrai, mais il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération. Sous le maillot de l'équipe de France, il a toujours été irréprochable sur le terrain avec ses coéquipiers, évidemment jusqu'à cet épisode qui n'est pas à minimiser, mais auparavant, il n'y a jamais eu l'ombre d'un souci avec Karim Benzema.
L'épisode de la sextette.
L'épisode de la sextette, bien entendu, qui sera évidemment beaucoup commenté, ça c'est certain.
Bon, bah écoutez, Louise, vous n'êtes pas convaincu, manifestement.
Du tout, non.
Moi, je me demande s'il n'est pas là, s'il est là plus exactement, qui ne sera pas là. Et c'est peut-être une piste. Et effectivement, il est possible que ça s'éclaircirait ce soir. Il y aura une forme de logique, si j'ose dire. Si,
n'oubliez
par exemple...
pas, Pascal, que les conditions sanitaires font que l'UEFA autorise cette fois-ci une liste élargie à 26 joueurs et non plus 23, ce qui permet aussi de prendre un attaquant supplémentaire, un milieu de terrain supplémentaire, un défenseur supplémentaire.
Ça, c'est la première fois qu'on est à 26.
Oui, c'est comme le fait de pouvoir faire 5 changements dans une partie au lieu de 3 avant. C'est uniquement lié aux conditions sanitaires particulières.
Et les 26, nous sommes d'accord, ce n'est pas une pré-liste. Les 26 iront, feront le voyage.
Oui, après, il existe aussi un doute ce soir sur le fait que Didier Deschamps fasse appel à des réservistes ou pas. C'est-à-dire ces fameux joueurs qui sont en retrait de la République, là, après, qui s'entraînent chez eux et qui peuvent à tout moment revenir.
Bon, premier match de l'équipe de France, c'est...
Alors, le match officiel, ce sera le 15 juin face à l'Allemagne, à l'Euro, et ensuite face à la Hongrie et au Portugal.
La pause, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Et Laurent, on va prendre un dernier témoignage sur Benzema, mais après on parlera évidemment d'autres sujets.
Oui, nous attendons sur d'autres sujets. Comprenez-vous, tiens, la présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demain à la manifestation des policiers devant l'Assemblée nationale. Est-ce la place d'un ministre policier? Qu'en pensez-vous? Patrice Ribeiro est le secrétaire général du syndicat Synergie Officier.
Que des membres du gouvernement veuillent venir, ils ont tout à fait le droit, ils sont les bienvenus. Mais en tout état de cause, nous n'offrirons aucune tribune aux politiques, ni à aucun membre du gouvernement, quel qu'il soit.
Sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. Pour Laurent, son travail n'est pas de manifester, mais de trouver des moyens pour défendre nos policiers. Avis partagé par Carlos. Il devrait soutenir concrètement les forces de police par des actes et non par de la communication et de l'image. C'est de l'opportunisme.
Alors Jérémy est avec nous et ce sera le dernier auditeur à intervenir sur Karim Benzema. Il est éducateur sportif, donc c'est intéressant. Est-ce que l'éducateur sportif que vous êtes valide le retour de Karim Benzema?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
Ben écoutez, je suis plutôt d'accord avec tout ce qu'on a entendu là, tout ce que j'ai entendu, notamment sur la forme exceptionnelle de Karim Benzema. Je pense que Philippe et toute l'équipe des sports peut en témoigner. C'est la saison de sa vie, hein, de sa carrière. Donc Benzema, sportivement, il est incontestable. Et je me disais que finalement, peut-être que dans l'idée de Didier Deschamps, ça serait de finir quelque chose, une histoire, une belle histoire. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ça dans le sport, ce serait pourquoi pas lui donner une chance et finalement une forme de rédemption, parce que là on parle d'un Benzema d'il y a 5-6 ans, l'homme a changé, le joueur a changé. Didier Deschamps s'est certainement concerté avec tout son staff et puis peut-être même, pourquoi pas avec Zidane ou avec d'autres. S'il y a bien un moment donné où il doit donner une dernière chance à Benzema, c'est maintenant. Donc je pense que ça peut être la surprise.
Moi, je ne crois pas à l'idée de change. Je crois que Deschamps est un pragmatique. S'il lui manque un avançant, il peut le prendre. Mais vous voyez, il ne fait pas de cadeau, Didier Deschamps. Philippe Sanfourche.
Non, il n'est jamais dans le romantisme, effectivement. Il sait quelle onde de choc ça va produire. Donc s'il fait ce choix, c'est qu'il estime que d'un point de vue purement sportif, il a besoin aujourd'hui de Karim Benzema. Il va le justifier ce soir s'il fait ce choix-là. Après, il s'était toujours prémuni finalement d'une décision définitive, puisque lui, comme d'ailleurs le président de la fédération Noël Le Graët, qui lui est forcément dans la boucle, autant Zinedine Zidane, c'est pas du tout certain, mais Noël Le Graët, ça c'est une évidence. Les deux hommes, Deschamps et Le Graët, n'avaient jamais mis un point final à l'histoire Benzema, en ayant des mots définitifs et en disant qu'il ne reviendrait jamais. Donc ça, pour le coup, ils avaient laissé une porte ouverte.
Bon, Jérémy, vous le souhaitez ?
Moi, personnellement, j'ai du mal à définir mon avis. C'est tellement soudain, là, comme annonce. Mais je pense, malgré tout, vous savez, Didier Deschamps, c'est quand même un personnage particulier. Et il sait l'image qu'il a autour de lui. C'est quelqu'un qui est sensible, peut-être, à ça, malgré tout. Et est-ce que vous ne pensez pas que, finalement, un Giroud un petit peu vieillissant, un Kylian Mbappé qui pourrait... On n'est pas à l'abri d'une contre-performance. Si la France ne fait pas un euro de haute volée, eh bien, ça pourrait jouer aussi en faveur de Deschamps, en disant, ben voilà, j'ai pris les joueurs que le peuple demandait, entre guillemets, ou que certains voulaient, et au final...
Il n'est pas dans cette logique-là, Didier Deschamps. Il est au-dessus des nuages, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il est champion du monde, comme joueur, comme entraîneur, donc il est au-dessus de toute critique, j'ai envie de dire. Il n'est plus dans un calcul politique de ce qu'il fait. Et s'il prend vraiment Benzema, c'est parce qu'il pense que Benzema lui est indispensable dans la liste. Merci Jérémy, en tout cas. Merci beaucoup.
Merci à vous, Pascal.
Je vais remercier Monsieur Sanfourche. Il est surpris quand même, hein, Monsieur Sanfourche.
Ah, on l'avait pas vu venir.
Il est un peu surpris.
Je suis bien curieux de savoir quel journaliste vous dira qu'il le sentait venir.
Il est un peu surpris, mais en même temps, bon, mais rien n'est fait. De toute façon, Marie Portolano ce soir, 20h20.
Rien n'est fait. On va
avec Nathalie Gannetta sur
M6. Qui pouvait exister pour ce rendez-vous de ce soir.
Sur M6 et TF1.
Tout à fait.
Donc déjà, les antennes sont conjointes ce soir.
Vous voyez, les journalistes avaient un temps d'avance sur l'actualité
exactement,
financière.
Mais ce n'est que pour l'équipe de France, bien évidemment. 13h45, la pause, on change de sujet. La réouverture des terrasses, qu'est-ce que vous allez faire demain ? Est-ce que vous allez aller au cinéma ou au théâtre, prendre un petit verre, au café, que sais-je, dans une boutique ? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
Pascal Praud.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
C'est la réouverture demain. Nous sommes avec Bertrand. Bonjour, vous êtes restaurateur, Bertrand.
Oui, bonjour Pascal Praud, merci de votre appel.
C'est le grand jour.
Demain, c'est le grand jour.
Ah, je suis content pour vous.
Merci.
Je suis content pour moi aussi, pour tout vous dire, parce que j'en ai marre, comme tout le monde, mais je suis content pour vous d'abord.
La météo n'est pas avec nous, mais au moins on a de l'espoir.
Bon, voilà. Comment ça se passe cette réouverture ? D'abord, j'ai l'impression que tous les restaurants sont déjà ouverts. Tout le monde est revenu, tout le monde prépare la journée de demain. Quand je dis ouvert, évidemment, on ne sert pas de clients, mais là, à Neuilly, à Paris, tout est ouvert.
Voilà, il faut dire que ça ne se remet pas en route en deux minutes. Donc, depuis lundi, tout notre personnel est revenu faire un grand coup de nettoyage, le remplissage des frigos, la mise en place en cuisine, pour être opérationnel demain. Alors nous, quoi qu'il arrive, ça faisait 6 mois et demi qu'on faisait de la vente à emporter. Donc demain, on sera toujours en vente à emporter, mais si jamais il y a un rayon de soleil, on peut servir sur place en terrasse.
Votre terrasse, c'est combien de personnes ?
Alors notre terrasse d'habitude, elle fait environ 80 couverts, et donc on va passer demain à 40.
Et à l'intérieur, il y a combien de places ?
On avait aussi 90 places en intérieur, mais demain, on ne fera rien en intérieur.
Oui, bien sûr. Mais a priori, vous, c'est 50-50 entre la terrasse et l'intérieur. Généralement, oui, c'est pas ce rapport-là. Généralement, la terrasse, ça représente 20 ou 30% du restaurant.
Non, mais on a la chance. Là, c'est une, C'est une brasserie spécialisée dans les restaurants routiers. Donc, on a une très grande terrasse et on a 5000 mètres carrés de parking. Donc, on fait un peu ce qu'on veut sur notre terrasse.
5000 en fait. Mais alors, vous êtes où? Vous êtes sur une aire d'autoroute?
Alors, on est à Toul, où Nadine Morado représente notre ville au niveau national, qui est souvent sur votre antenne. Mmh. Et on est en face de l'ancienne usine Kléber. Donc, on a deux brasseries. On a une brasserie pour les professions libérales dans l'usine Kléber, des anciens pneus Michelin, et une autre brasserie en bord de route nationale pour les gens de la route et les gens du bâtiment.
Bon, et demain, vous pensez que s'il pleut, vous ne prendrez pas le risque d'ouvrir une terrasse, même protégée par des parasols?
Non, le gouvernement a été clair, la terrasse doit être couverte, mais pas sur les côtés ni devant. Donc, c'est même pas la pluie demain qui nous inquiète, c'est la température. Ils annoncent 9 degrés. Donc, quoi qu'il arrive, on ne mange pas dehors à 9 degrés. Non, faut pas
9
rigoler.
Degrés, 9 degrés à Toul demain, mais quand, à quelle demain, heure? À l'heure du déjeuner, demain, 9 degrés?
Non, mais demain vers midi, en ressenti, on sera à 9 degrés, il y a du vent, donc on sait très bien que ça ne sera pas possible.
Bon, bah écoutez, c'est bien, hein, si j'ose dire. Vous êtes combien dans votre restaurant, Bertrand?
Alors, dans cette brasserie spécialisée en routier, on est 7. Et dans l'autre brasserie, pour les professions libérales, on est une petite dizaine.
Bon, le menu, par exemple, dans une brasserie comme la vôtre, c'est quel prix?
C'est une formule à 12,50. On a une...
12,50
Oui, 12,50.
Avec entrée, plat, dessert?
Entrée, plat, dessert. On a un petit pâté en croûte en entrée. On a une grosse salade vosgienne en plat. Et en dessert, on a un dessert à base de fromage blanc et de fruits frais.
Mais à 12,50 euros par personne, vous gagnez de l'argent? Vous arrivez à gagner de l'argent?
Oui, on arrive à gagner de l'argent. Parce on pas... achète nos produits comme il faut. Voilà, il faut des restaurants comme nous pour les gens qui ont besoin de manger chaud, assis, et qui n'ont pas des budgets alimentaires le midi exponentiels.
Bien sûr, mais généralement, les gens qui déjeunent chez vous, les routiers, ils sont sur note de frais, a priori, c'est pas leur argent perso.
Ils sont sur note de frais, mais ils ont des notes de frais qui sont limitées. C'est pas extensible.
Et vous savez, par exemple, la note de frais pour un routier le midi, combien son patron en général lui donne?
Ça dépend des entreprises. Il y a ceux qui font l'international, donc qui roulent, on va dire, de la Bretagne à Strasbourg, et puis il y a ceux qui roulent sur la région. Ils n'ont pas les mêmes paniers. Et puis après, on a les ouvriers du bâtiment qui viennent chez nous. On a des peintres, des plaquistes, des carreleurs. Et ça, après, c'est au bon vouloir de l'entreprise.
Ouais, mais c'est intéressant parce qu'on est un peu déphasé, pour tout vous dire, à Paris. Des restaurants à 12,50
euros. Non, mais si vous voulez, c'était le but. Nous, la brasserie qui est dans l'usine Kléber pour les professions libérales, on avait deux fourchettes Michelin, donc on avait un certain tarif. Et sur la zone, il fallait aussi que les gens qui n'ont pas le budget, qui n'ont pas 30 euros tous les midis pour déjeuner, qu'ils puissent déjeuner dans de bonnes conditions.
Bah écoutez, bravo. Bravo à vous et voilà. Merci. Bah. Donc on va refaire un petit peu de pub pour vous parce que vous êtes tellement sympathique. Donc c'est le restaurant à Toul.
Alors c'est la brasserie au comptoir et la brasserie à Toul.
Eh ben écoutez, voilà, ça s'appelle de la publicité, mais c'est pour la bonne cause parce qu'il faut aider les restaurants et les restaurateurs. Merci Bertrand.
Merci à vous.
Merci à vous. Et vraiment, vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là pour demain. Frédéric est avec nous également. Frédéric est restaurateur dans le Rhône. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe, Frédéric?
Ben là, on est en pleine préparation.
C'est-à-dire?
Eh ben, on fait la mise en place, qu'on appelle en cuisine, on prépare. On était faire le marché ce matin. Bon, nous, on ne réouvre pas demain, on réouvre jeudi, parce que par rapport à la météo... Comme jeudi il fait beau, on a décidé d'ouvrir jeudi, voilà.
Et là, vous allez ouvrir évidemment en terrasse. Combien de places vous disposez en terrasse?
J'ai 70 s'il fait très beau et 40 s'il fait pas très beau.
Vous êtes où précisément dans le Rhône?
On est à Anse, je suis à Anse.
D'accord.
Bord de Saône.
Et qu'est-ce qu'on annonce comme température et comme temps jeudi?
Mais écoutez, demain, jeudi, ça doit être pas trop mal. On doit être aux alentours de 20 degrés, 21 degrés, donc avec le soleil, pas de pluie, donc on est assez confiant.
Vous allez ouvrir la terrasse le midi et le soir?
Alors, je vais ouvrir la terrasse le midi, du mardi au dimanche, et puis le vendredi soir et le samedi soir, je vais faire 19h, 21h45, voilà.
Bon, vous avez récupéré...
On a de la demande déjà même pour le jeudi soir, donc je pense qu'on va ouvrir le jeudi soir, vendredi soir et samedi soir en 2 heures. Quoi, voilà.
Vous avez récupéré tout le personnel?
Pour le moment, oui.
Le moral est bon. D'ailleurs, personne n'a arrêté la profession. Je lis à droite à gauche qu'il y a des gens qui sont un peu excédés de cette situation et qui ont préféré changer de métier. C'est arrivé chez vous?
Écoutez, moi, c'est pas arrivé. Pour le moment, c'est pas arrivé. Je touche du bois. On est bien parti. Toute l'équipe était là ce matin, donc ça fait très plaisir.
Toute l'équipe, c'est combien de personnes ?
Oh, on est 8.
Bon, et le moral est bon ? Ça a été dur pour moral, tous ces gens qui travaillent avec vous ? Ils ont mal vécu cette période-là ? Ou au contraire, ils ont fait contre mauvaise fortune, bon cœur ?
Bah écoutez, je pense que ils ont passé 6 mois et demi assez bien. Voilà. Hein, maintenant, ils ont la pêche. Ce matin, ils avaient le sourire, ils avaient la pêche. Donc, ça fait plutôt plaisir. Ils étaient très motivés. Bon, je les ai vus pendant 6 mois parce que j'ai fait les plats emportés. Et on a essayé de garder un côté social, de se revoir quand même régulièrement. On avait créé un compte WhatsApp pour se parler. Enfin, voilà, on communiquait quand même. Pendant 6 mois et demi, on n'est pas resté indifférent.
Eux étaient au chômage partiel. Vous aviez sans doute les aides...
J'avais les aides sur un restaurant, pas sur les deux, parce que j'ai deux restaurants et sur un seul restaurant. Parce que moi, j'avais ouvert en 2019, donc malheureusement, ça n'a pas été possible. Mais les aides, heureusement qu'on les a eues quand même. Je pense qu'il faut quand même remercier le gouvernement pour ça, parce que sans les aides, je pense que moi-même, je ne serais plus là. Il faut avouer que le chômage partiel plus les aides, ça nous a vraiment aidés. Et ça nous a maintenu le moral au beau fixe, malgré tout. Après, moralement, c'était plus compliqué. C'est quand vous passez d'un métier à fond toute l'année, et puis là, vous chutez d'un seul coup. Donc, les dernières, on a eu 2 mois et demi. Cette année, 6 mois et demi. Ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et c'est vrai que la trésorerie, on est impatient de rattaquer. Parce qu'il va falloir payer tout ce qu'on doit. Hein, et voilà.
J'imagine. Alors, peut-être que vous pouvez nous faire saliver en nous disant les menus que vous proposez demain.
Alors demain, moi j'ai rattaqué comme par rapport à météo, j'ai fait une grande carte menu. Bon, on a du homard, on a des asperges, on a des foie gras. Bon, j'ai la spécialité, c'est l'andouillette de homard, la soupe d'olive verte au crabe. Après, on fait un foie gras artichaut haricot vert, on fait du.
Ouais, donc on est plutôt sur du haut de gamme chez vous.
Non, bistronomie. J'aime bien ce mot, bistronomie.
Et le ticket moyen d'un déjeuner ?
Le ticket moyen, on a l'entrée plat dessert du jour, on est à 26,50. Et après, tant qu'on est à la carte, on tourne aux alentours du 45. Après, c'est les boissons. C'est après, suivant si les personnes se lâchent
mais
ou pas.
Mais il y a un menu à 26,50 €.
Ouais, l'entrée plat dessert du jour, c'est à 26,50.
Et là, on est avec carafe d'eau. Là, il n'y a pas de vin, il n'y a rien du tout.
Ah ben non, il n'y a pas de vin, il n'y a pas d'eau. Il faut bien qu'on soutienne nos vignerons aussi.
Attendez, évidemment. Bon,
parle des restaurateurs, mais je pense qu'il y a tout le monde qui va autour, tout le staff, les fournisseurs, les petits, les grands, ceux qui nous livrent nos légumes, nos fromages.
Bon, là, a priori, quand même, on a économisé parce qu'on n'a pas dépensé beaucoup au restaurant depuis des mois. Donc peut-être que dans les premiers temps, en tout cas, on pourra aller une ou deux fois.
Je vous rappellerai la semaine prochaine pour vous le dire si jamais ça marche.
Frédéric, merci.
J'ai un soutien, j'ai juste un petit mot, j'ai un soutien pour tous mes collègues et amis restaurateurs des toques blanches lyonnaises et des restaurants de France qui, eux, ne peuvent pas réouvrir, qui n'ont pas de terrasse. Donc voilà, c'est un petit mot amical pour eux.
Merci beaucoup Frédéric. Le flash dans une minute.
Merci à vous Pascal Praud, parce que je suis un fan de Pascal Praud.
Écoutez, vous êtes gentil. Merci Frédéric. Bravo. En tout cas, vraiment un grand bonjour à tous nos amis restaurateurs. On va continuer évidemment entre 14h et 14h30, mais demain tout rouvre, le cinéma, et puis peut-être des auditeurs vont-ils aller au cinéma, peut-être qu'ils attendent cela, la séance. Qu'est-ce que vous allez aller voir demain ? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Alexandre de Saint-Aignan.
De Twitter jusqu'au commissariat, 9 personnes viennent d'être interpellées, soupçonnées d'avoir écrit des messages antisémites sur le réseau social le soir de l'élection de Miss France 2021. C'était le 19 décembre dernier. Information à RTL signée Thomas Proutot. Des insultes qui prenaient pour cible Miss Provence alors qu'elle avait évoqué ses origines israéliennes. 4 hommes et 4 femmes ont été arrêtés ainsi qu'un mineur. Il risque jusqu'à 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Après la Creuse, ce matin, l'Ardèche annonce un assouplissement des règles sur le port du masque en extérieur dans ses départements. Il est désormais facultatif dès aujourd'hui dans les zones à faible densité de population. À Paris, le parvis de Notre-Dame fermé à cause de la pollution au plomb. Plus de 2 ans après l'incendie de la cathédrale, la concentration de poussière y reste visiblement élevée, de poussière de plomb au point d'interdire l'accès aux piétons et aux voitures. Les autorités annoncent un nettoyage jusqu'à ce que les analyses reviennent à un niveau suffisamment bas. Quelle équipe de France pour l'Euro de football ? Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, va annoncer la liste liste des 26 joueurs retenus ce soir en direct sur M6 et sur TF1 à partir de 20h20 avec potentiellement un retour de Karim Benzema. Ce serait une énorme surprise, plus de 5 ans après la dernière sélection de l'attaquant madrilène. Le temps pour demain, ce sera encore bien instable avec des averses parfois orageuses sur une bonne moitié nord. Elles vont ensuite s'étendre jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, puis jusqu'au Massif central et à Rhône-Alpes. Sur les bords de la Méditerranée, en revanche, le soleil va l'emporter, toujours accompagné de vents forts. Côté température, il fera 11 degrés à Belfort, on attend 12 à Auxerre, 13 à Lille, 14 à Paris, 17 à Lyon et 20 degrés à Marseille. Il est 14h02, c'est la suite. Des auditeurs ont la parole avec vous, Pascal.
Merci Alexandre.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Qu'est-ce qui vous a le plus manqué depuis des mois ? Est-ce que c'est le théâtre ? Est-ce que c'est le cinéma ? Est-ce que c'est le restaurant ? Est-ce que c'est le shopping ? Que sais-je ? Nous sommes avec Clémence qui habite Amiens. Bonjour Clémence.
Bonjour Pascal.
Une petite terrasse demain, Clémence ?
Eh bien non, je vais jouer les rabat-joie de service.
Oh bah, pourquoi ça ?
Je suis désolée. Ben en fait, j'ai l'impression que ça va être celui qui sera le premier en terrasse, qui va poster la première story. Ouais, je suis en terrasse, etc. Et même s'il y a un temps superbe de prévu, eh bien, je ne serai pas en terrasse.
Mais pourquoi ? Alors, pourquoi ? Moi, je veux bien. Parce que vous avez un esprit de contradiction ?
Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est juste l'impression qu'on nous force à y aller. Alors, je suis content qu'il puisse réouvrir.
Oh, attendez, moi, j'ai pas l'impression qu'on nous force à y aller. J'ai l'impression que c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que ça fait des mois qu'on attend ça.
Eh bien, écoutez, moi, les apéros, on les a fait entre amis. Et c'était pas plus mal, finalement.
Oui, alors, en fait, ce qui est terrible, ce que vous êtes en train de me dire, c'est ce qu'on imagine parfois, c'est que vous êtes habitué à vivre différemment. Et
fait.
Que finalement, ce qui est vrai pour les terrasses peut être vrai également pour le sport, peut être vrai pour le cinéma, que les gens se sont déshabitués et qu'ils ne vont peut-être pas revenir aussi vite à leur vie d'avant.
Tout à fait, tout à fait.
Bah oui, mais moi ça me fait peur.
Effectivement, j'adorais pourtant aller boire un verre dans les bars le vendredi soir, mais je ne suis pas prête à y retourner tout de suite en fait.
Alors là, vous me sidérez Clémence, mais alors qu'est-ce que vous allez faire le vendredi soir ?
Eh bien, alors, on continuera à faire nos apéros entre amis, etc. Alors, sur une terrasse ou sur un balcon, mais pas forcément en terrasse dans les restaurants.
Mais pour des raisons, parce que vous trouvez que le restaurant ou le bar, finalement, est un peu plus cher ou trop cher et que vous avez trouvé une manière différente de passer du bon temps en dépensant moins ?
Non, même pas forcément, mais c'est parce que j'ai l'impression que tout le monde veut y aller en même temps et que ça va être la cohue. Donc j'ai à attendre que ça s'essouffle un petit peu.
Bon, bah écoutez, ah oui, c'est pas définitif quand même, Clémence.
Ah non, ah bien sûr que non.
Bon.
Je me ferai un plaisir de retourner sur les terrasses, mais pas tout de suite.
Et puis c'est sympa quand même, un petit dîner en tête-à-tête avec un amoureux, ou une amoureuse
oui,
d'ailleurs.
Alors il faut trouver l'amoureux, mais je suis en recherche.
Ah oui, mais si vous restez chez vous, Clémence, faut peut-être aller.
Je me fais pas de soucis pour ça, Pascal.
Ah oui, ah bon, bah alors, mais faut aller en terrasse, pourquoi pas.
Écoutez,
faut rencontrer du monde, oui.
Vous savez quoi, je vous invite en terrasse et on essaiera d'en trouver ensemble.
Bah écoutez, vous habitez où, Amiens?
Amiens, c'est pas très loin, ça devrait le faire.
Ah, oui, vous avez raison, j'ai déjà du mal à sortir de mon arrondissement parfois, mais pourquoi pas. Alors, je crois en plus que je suis allé à Amiens, il y a un stade
vous
de football.
Il y a un super club de foot.
Le stade de la Licorne.
Mais tout à fait.
C'est ça qui est terrible, je connais les villes en fonction des stades de football. Certains c'est des musées, d'autres c'est les églises, moi c'est les stades de football. Bon ben bah, merci Clémence.
Je vous souhaite une belle journée.
Ben bah, non, mais bah, merci beaucoup à vous. Clémence. Bon, qu'est-ce que vous faites, vous, Monsieur Caranoni, demain, à la première heure ?
À la première heure, je prendrai mon petit déjeuner chez moi. On voulait vraiment que je fasse minute par minute, ça va être hyper long.
Mais vous n'avez pas envie
non, en
de
fait,
vous
malheureusement,
projeter
malheureusement, de... demain, je n'aurai pas l'occasion d'aller en terrasse parce qu'il faudra que je vienne à la radio et je partagerai des moments avec vous. Mais dès que j'en aurai la possibilité, c'est-à-dire
mais avant,
samedi...
Mais vous n'avez pas un petit café en terrasse près de RTL, là, les petites terrasses, ça vous tente pas d'aller...
Malheureusement, je ne suis pas sûr d'avoir le temps.
Oh,
bah écoutez,
franchement, ça je suis un peu déçu de.
Bah, je vous confie mon fils alors quelques minutes, le temps de prendre un petit café.
Et vous savez qu'il sera en sûreté.
J'en suis certain.
En sécurité.
Hein. 14 ans. Vous un peu moins peut-être.
Quel âge il a maintenant le petit Pio ?
Il a presque 2 ans et demi.
Mais 2 ans et demi, c'est quasiment un adolescent dans le monde d'aujourd'hui. 14h06, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RT.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
On a eu des restaurateurs, on a eu des clients de restaurants. On n'a pas parlé de cinéma, on n'a pas parlé de musée. Donc on va être avec Sylvain, bonjour, qui est directeur d'un musée à Mulhouse.
Exactement, bonjour à vous.
Et bonjour Sylvain, donc demain vous rouvrez.
Alors demain nous rouvrons et pour répondre à la question de votre sujet, que fait-on demain? Eh bien nous rouvrons et surtout nous sommes dans l'attente active d'accueillir un maximum de visiteurs après cette longue période de fermeture.
Quel est l'objet de votre musée?
Alors en fait c'est le plus grand musée ferroviaire d'Europe, c'est la Cité du Train, musée du patrimoine SNCF.
Ah ça c'est formidable ça, alors ça, vous en parlez, on a déjà envie d'entrer dans votre musée. J'imagine c'est milliers de mètres carrés?
Alors en fait, très exactement, c'est 6 hectares d'exposition, plus de 100 matériels ferroviaires roulants qui sont exposés, qui retracent toute l'histoire du chemin de fer en France, depuis ses origines jusqu'à nos jours.
Mais c'est génial ça, ce musée-là, mais tout le monde a envie d'aller voir ce musée, c'est-à-dire que vous avez les premières locomotives?
En fait, non seulement nous avons les premières, mais nous avons dans notre collection la plus ancienne locomotive à vapeur d'origine en Europe. C'est une locomotive qui date de 1844.
Formidable. Et qui est en état de marche?
Alors ça, c'est l'éternel sujet. Les locomotives à vapeur, c'est un peu compliqué parce que finalement, on peut se dire qu'on met du charbon, on met un peu d'eau et c'est en état de marche, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Alors, ceux qui visitent votre musée ont le droit de monter dans les locomotives?
Dans certaines, oui, pas dans toutes, pour différentes raisons, et notamment l'une des premières d'entre elles, c'est la préservation du patrimoine. Et compte tenu du nombre de visiteurs que nous accueillons, c'est un peu compliqué de permettre à tout le monde de monter à bord des matériels. Sinon, on serait obligé, évidemment, de constater quelques dégradations. Mais dans certains matériels, et notamment certains matériels emblématiques, on peut visiter les intérieurs, effectivement.
Quand est-ce que la troisième classe a disparu en France?
Alors la troisième classe, là vous me posez une petite colle, par contre... Si vous
il y avait trois classes, hein, maintenant il n'y en a que deux évidemment dans les trains, alors, la SNCF, mais il y avait, moi j'ai pas connu hein, la troisième classe, mais il y avait effectivement trois classes dans la SNCF. Mais
alors
bon.
Pour votre information et votre culture d'homme du monde, il y avait même une quatrième classe spécifiquement sur le réseau Alsace-Lorraine avant la création de SNCF. C'est le seul réseau en France, héritier des anciennes compagnies ferroviaires, qui proposait jusqu'à quatre classes.
Qu'est-ce qu'on peut voir au-delà du matériel de locomotive? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut voir?
Alors évidemment, l'essentiel de nos collections est composé de matériel roulant, locomotives, voitures et wagons. Mais nous exposons, j'allais dire, des dizaines de milliers de pièces annexes qui ont toutes évidemment attrait au chemin de fer, que ce soit de l'outillage, que ce soit des pièces détachées, que ce soit des pièces de voies ferrées.
Vous avez des habits, j'imagine, également de ceux qui travaillaient sur ces machines ou même qui contrôlaient?
Nous en avons quelques-uns. Nous avons aussi une formidable collection d'iconographies avec des affiches anciennes de promotion et de publicité des compagnies ferroviaires SNCF et les précédentes. Et donc, c'est un musée qui est assez complet et qui, une fois de plus, retrace toute l'histoire du chemin de fer en France.
Bah écoutez, moi je ne connais pas votre musée, mais vraiment, je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. C'est l'entrée est à combien?
Alors l'entrée est à 13€ pour les adultes, évidemment un tarif réduit pour les enfants et la gratuité pour les enfants en dessous de 4 ans.
Et puis on a la nostalgie, lorsqu'on voit les films des années 70, d'abord on a la nostalgie parce qu'on voit les passagers ou ceux qui accompagnaient les passagers pouvoir aller jusqu'au train, pouvoir les aider à monter dans le train et puis on pouvait baisser les vitres pour se dire au revoir, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui.
Les fameuses vitres à glissière qui ont été supprimées pour des raisons de sécurité évidentes, mais effectivement c'est aussi tout un pan de...
Mais c'est formidable ça, c'est formidable. C'était...
La bataille du rail, avec la bête humaine, avec des évocations sur le crime de l'Orient Express, par exemple, puisque nous avons la chance aussi d'exposer des voitures de la compagnie internationale des wagons-lits, et qui invite au rêve.
Mais comment s'appelle votre musée?
La Cité du Train.
Bah écoutez, la Cité du Train, donc c'est à Mulhouse.
C'est à Mulhouse, qui accessoirement est la capitale européenne des musées techniques, puisque nous avons aussi sur le territoire d'autres grands musées, l'écomusée d'Alsace, la cité de l'automobile et une multitude d'autres. Et donc, une destination qui mérite véritablement une visite.
Et il y avait un autre musée de deux frères célèbre qui avait...
La cité de l'automobile, qui est issue de la collection des frères Schlumpf.
Voilà, et alors ça c'est aussi, il y a toutes les voitures qui font rêver, et les voitures qu'on n'a jamais connues d'ailleurs, hein, mais les voitures du passé qui sont là. Bah écoutez, vraiment merci Sylvain, c'était agréable de vous écouter. Qu'est-ce que vous avez fait pendant tout ce temps de fermeture? Vous avez travaillé ou vous êtes reposé?
Non, on a fait tout sauf se reposer. Nous avons travaillé, on a été très très présents pour garder le lien avec nos visiteurs, donc très présents notamment sur les réseaux sociaux. On a produit quelques Facebook Live où on a fait des visites virtuelles. Nous avons engagé aussi de grands projets de réaménagement de la scénographie, avec notamment cette année, puisque nous fêtons cette année les 50 ans de ce musée, et qu'en 2021, on marquera aussi les 40 ans de TGV. Donc nous sommes en train de faire toute une programmation d'événements qui vont marquer toute l'année à partir de demain et pendant une année complète.
Eh ben merci beaucoup Sylvain, vraiment merci beaucoup, parce qu'on a tous joué, je pense, au train électrique quand on était enfant, des après-midi, sans doute l'avez-vous fait aussi, Greg Caranoni?
J'y joue encore grâce à mon fils et je suis le plus heureux quand je le fais.
Et c'est vrai, ben c'est génial les trains électriques. Et on achetait des vieilles locomotives, etc. Alors, fallait le monter, le train électrique. Hein,
c'est voilà. Toujours d'actualité.
Ben oui, c'est formidable, ça, des trains électriques. Et puis, ils roulaient, ils passaient, il y a des forêts, tout. Moi, j'avais un très beau train électrique.
J'ai la réponse à votre question pour savoir quand était supprimée la troisième classe.
Oui, ça doit être après la guerre.
C'était en 1956.
Ouais, c'est
le 3 juin 1956, ouais. Il y a presque 65 ans.
C'est vrai. Il y a deux choses dont le regret dont on parlait, c'est effectivement ces wagons où on pouvait dire au revoir et avec la vitre qui se baissait. Et moi, j'ai aussi la nostalgie des autobus à plateforme. Que vous n'avez pas connu, et moi quasiment pas, puisque c'était en 71 que ça a été supprimé à Paris. Mais c'était merveilleux, c'est un signe de liberté. Alors évidemment, la sécurité, c'est important, bien sûr, mais les autobus à plateforme, c'est un monde. C'est un monde d'hier, un monde englouti. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et vous le savez, deux semaines après le meurtre du brigadier Éric Masson à Avignon, des milliers de policiers ont prévu de se rassembler demain devant l'Assemblée nationale à l'appel de l'ensemble de leurs syndicats. Ils réclament davantage de sévérité pour les agresseurs des forces de l'ordre. Les organisateurs ont appelé les citoyens à venir les soutenir lors du rassemblement prévu à 13h demain. Nous sommes avec Fabrice, puisqu'il est possible. Fabrice, vous êtes policier. Il est possible que Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, et quand je dis il est possible, il sera présent, c'est en tout cas ce qu'il a dit, le ministre de l'Intérieur sera donc présent dans cette manifestation, ce qui paraît paradoxal. Est-ce que vous comprenez son geste? Bonjour Fabrice.
Bonjour Pascal Pro.
Bonjour. Est-ce que vous comprenez son attitude?
Alors écoutez, dans un premier temps, je respecte M. Darmanin, qui est le premier flic de France. Mais je comprends.
Monsieur Darmanin, déjà, respectons son nom si.
Darmanin, oui, pardon.
Si vous me permettez.
Voilà. Donc, je respecte la personne. Maintenant, je comprends beaucoup moins bien sa présence. Alors, je vais tenter d'argumenter. Déjà, par un paradoxe qui me paraît évident. Vous avez l'association de faits contradictoires. Le premier fait, rassemblement de policiers représentants intersyndicales, citoyens. Et vous avez le deuxième fait, qui est la présence de Monsieur Darmanin et de représentants politique. C'est un peu comme si un directeur d'entreprise était présent avec ses salariés lors d'une manifestation. Voilà, ça c'est le côté contradictoire. Derrière, moi je pense que sa présence va susciter un engouement des autres partis politiques qui vont vouloir se greffer à son rassemblement. Et je pense que ça va perdre énormément de crédibilité. Les policiers sont en colère, ils demandent des réformes claires, un partenariat aussi et travailler avec le garde des Sceaux, M. Dupond-Moretti et tous les magistrats de France. Moi, je pense que ça va se transformer en une communication politique et de récupération préélectorale. Vous avez même un membre du PCF qui sera présent. On a une colère des policiers.
et vous avez un maire à vie juive PCF qui veut désarmer sa police et qui va désarmer et qui a désarmé sa police municipale du lanceur de balles de défense, de son taser. On leur laisse juste l'arme à feu car on est en vigipirate. Donc vous voyez, il y a une incompréhension et une récupération d'une marche qui devait être une marche citoyenne des différents faits qui se sont passés récemment pour nos collègues et l'ensemble de notre profession à un coup de communication préélectorale, récupération politique. Bah, normalement, c'est sans banderole. C'est sans banderole demain.
Non, mais là où vous avez raison, c'est vrai que la campagne électorale a commencé. Par exemple, M. Roussel, qui est le secrétaire général du Parti communiste, sera présent demain. Et nul doute qu'il veut envoyer le signe que son parti est sensibilisé à la sécurité des policiers. C'est pas toujours le cas à gauche. En tout cas, c'est le reproche parfois qui est fait. Et qu'il manifeste avec vous. Donc, c'est un signe aussi, d'ailleurs, qui a surpris. Hein,
Quel signe, M. Pascal Praud, le maire de Villejuif, PCF, désarme sa police municipale?
Oui, alors c'était hier, effectivement, le maire de Villejuif, vous avez parfaitement raison, a désarmé ça.
Compréhension totale.
Mais alors, vous avez raison, ça fait partie des paradoxes. Bon, en tout cas, vous êtes policier, vous êtes sur le terrain?
Oui, tout à fait, policier en Savoie, j'ai déjà eu l'occasion de... Je vous dis, le geste de M. Damarin, plutôt que cette présence, aurait dû nous offrir la gratuité pour l'ensemble des collègues, et je vous l'avais exprimé à l'antenne, de pouvoir monter à Paris, et des collègues seront lésés demain. On regardera les images au niveau des médias, mais je pense que le mouvement, cette colère des policiers, cette grogne, va perdre toute sa crédibilité. Je suis désolé d'exprimer ainsi.
Merci Fabrice. Dernier témoignage aujourd'hui sur ce sujet, Gérald Darmanin présente dans cette manifestation. Nous sommes avec Eddy, qui est maire adjoint. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous êtes maire adjoint dans le Nord, d'une petite commune?
Tout à fait. Maire adjoint d'Anglo, qui est une commune de 600 habitants et qui est à 10 minutes, un quart d'heure de Lille. Voilà.
Votre sentiment sur la présence du ministre de l'Intérieur demain à la manifestation?
Écoutez, moi je me demande si Gérald Darmanin a conscience qu'il est ministre de l'Intérieur. Pourquoi les policiers manifestent en réalité? Pour deux raisons. Vous l'avez dit, il y a un hommage qui va être rendu à Éric Masson, ce pauvre policier qui est décédé donc en intervention dans le cadre évidemment de son métier, mais bon, qui est révélateur d'une époque aussi où on a de plus en plus d'atteintes alors qu'ils vont de la simple insulte verbale au meurtre de policiers. Mais il y a aussi pourquoi ces policiers manifestent, parce qu'ils veulent exprimer en réalité une colère à l'égard du gouvernement, à l'égard de l'inaction du gouvernement. Or, Gérald Darmanin est lui-même ministre de l'Intérieur, donc en charge de la police. Donc en fait, ces policiers manifestent contre l'inaction de Gérald Darmanin, et Gérald Darmanin viendrait dans cette manifestation soutenir la colère des policiers. Il y a quand même une contradiction. Le policier qui était juste avant moi, là, qui intervenait juste avant moi, le disait à juste titre. Donc là, il y a une incompréhension. En réalité, qu'est-ce que ces policiers attendent de Gérald Darmanin? Pas qu'il soit présent à cette manifestation et qu'il fasse une vulgaire récupération politique de l'événement qui s'est passé, cette manifestation. Ils attendent des faits, des actes concrets, une coopération de tous les membres du gouvernement pour lutter contre l'insécurité du quotidien qui gangrène. C'est-à-dire, moi, je suis maire adjoint d'une petite commune, même dans ma commune, qui est assez rurale, on a des faits d'insécurité qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire qu'il y a une explosion de l'insécurité, qui sont des faits qui ne sont pas outrageusement dramatiques, mais il y a une réelle augmentation de l'insécurité qu'il faut combattre avec les policiers, en effet, attendre aussi des mesures de gouvernement pour les aider, tant en termes de moyens humains, de moyens matériels, mais aussi une réelle volonté de la part de la justice de condamner tous ceux que la police attrape et venir couronner l'action de la police sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une telle différence entre l'action des policiers qui sont sur le terrain engagés très engagés dans leur fonction et une justice qui, elle, quand les policiers amènent les coupables devant la justice fait preuve d'un laxisme comme on n'a jamais vu et donc ça décourage aussi les policiers dans l'exercice de leur fonction et on peut comprendre cette colère. Mais si Gérald Darmanin voulait réellement la comprendre et faire que cette colère soit gommée, qu'il agisse et non pas qu'il bombe le torse et qu'il fasse un Nicolas.
Eh bien, merci beaucoup, Eddy. Merci. Vous étiez le dernier témoignage. C'est l'heure du débrief avec Laurent Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Chers amis, l'heure est grave.
Branle
branle-bas de combat. Je répète le message, branle-bas de combat.
Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, dévoile ce soir à 20h20 sa liste de joueurs pour l'Euro. Et le nom de Karim Benzema revient avec insistance.
Si Karim Benzema revient en équipe de France, c'est un tremblement de terre parce que c'est l'exact contraire de ce que dit Didier Deschamps depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années.
Vous avez la liberté d'ouvrir les débats sur qui vous voulez, quand vous voulez.
Mais qu'en est-il à l'heure actuelle ? Philippe Sanfourche, qui suit l'équipe de France de football pour RTL, est venu nous voir.
La possibilité qu'il y soit existe depuis la journée d'hier. Ce qui nous est revenu dans la matinée, c'est que l'option prenait corps d'heure en heure. Donc c'est une façon de préparer déjà un petit peu les journalistes et donc l'opinion publique au fait que Karim Benzema sera dans la liste ce soir. On ne peut pas l'affirmer à l'heure qu'il est, mais la tendance est quand même de plus en plus nette.
Alors vous, sélectionneur, Karim Benzema doit-il faire partie du groupe ? Arnould n'est pas convaincu.
Est-ce qu'on est le 1er avril ? Parce que c'est vrai que Didier Deschamps n'a jamais fait transpirer à aucun moment la possibilité que Benzema soit de nouveau sélectionné. Donc moi, ça fait depuis que j'entends ça à la radio, je suis un peu estomaqué.
Ouais, c'est vrai qu'Eric aussi imagine un scénario.
C'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15, 20 dernières années.
Ah ouais, Eric n'y croit pas une seule seconde.
Bah moi, je pense que Didier Deschamps ne va pas le sélectionner. En 98, quand Aimé Jacquet a dit à Eric Cantona, t'es le meilleur de l'équipe, mais l'équipe est les meilleures sans toi. Personne n'a rien dit sauf les anti-jaquets.
Mais les pros Benzema s'excitent sur les réseaux sociaux. Près de 200 000 messages sur le réseau social Twitter. Talel est en mode Lara Fabian. J'y crois. Le retour en bleu de son idole, Talel y croit.
Eh ben moi, j'espère qu'il sera sélectionné, bien sûr. Quelqu'un qui marque 71 buts en Ligue des Champions, c'est exceptionnel. Personne ne peut le nier, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et l'un des meilleurs à son poste.
Vincent n'est pas fan de l'homme, mais peut-on se passer du joueur pour l'Euro ?
Aujourd'hui, l'équipe de France de 2018 n'est pas celle de 2021. Aujourd'hui, il serait utopique de dire on va faire jouer des gens comme Giroud, des gens comme Anthony Martial, ou on est un certain Karim Benzema, c'est le plus. Je ne dis pas qu'on va gagner l'Euro avec lui, mais ne pas le prendre, c'est dommage. Donc se priver de Karim Benzema serait une bêtise.
Verdict à 20h20 ce soir, un pronostic sur Benzema, un retour en bleu ou non, Christelle Robière ?
Je n'en sais rien. J'espère juste que ce n'est pas inconditionnel pour rien.
Voilà. Bon, faisons un petit tour dans la rédaction, un avis, Benjamin Sportouche, chef du service politique de RTL.
Eh bien, on ne sait pas.
Alors, quelle pourrait être la première réaction de Karim Benzema s'il est sélectionné pour l'Euro ?
Je te dis, est-ce que tu penses que Giroud, est-ce qu'il a le potentiel pour être titulaire à ta place ?
Ça va être vite fait, les mecs. On ne confond pas la F1 et le karting. Et je suis gentil. Moi, je sais que je suis la F1.
Un avis sur votre joueur, Zinedine Zidane ?
Qu'il est bien, voilà, qu'il est bien.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec peut-être la chanson de Didier Deschamps ce soir s'il annonce le retour de Karim Benzema chez les Bleus.
Je reviens te chercher.
Ouais. Ouais.
Je savais que tu m'attendais.
Ouais. Je savais. Ouais.
Franchement, on aurait bien profité de votre imitation un peu plus longtemps, mais nous sommes en retard.
Mais c'est la chanson qu'on chante avec Thomas Soto dans son bureau, régulièrement. Je reviens te chercher. Ouais.
Oh non.
Il nous écoute, Thomas.
Je pense qu'il faut lui faire écouter. Ça va l'amuser.
14h28, Flavie.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur...